Waouh. Difficile de passer après ça, mais je crois que le Seigneur, il veut encore remettre une couche. Il continue. On va rester dans cette atmosphère de gloire, de présence douce et intime de Dieu. C'est comme par hasard, aujourd'hui, je me suis battue contre le doute et contre quelque chose de lourd. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on veut rester dans cette présence de Dieu. Je vais retrouver ma page. Je vous ai ramené un petit carnet parce que, en fait, c'était le point de départ de ce message. C'est que j'avais acheté un petit carnet pour noter des choses qu'on recevait pendant les cultes. Des messages en particulier. Et en fait, il est loin d'être rempli parce que je l'ai mis de côté. J'avais fait des jolis dessins et tout dedans. Et récemment, je l'ai retrouvé. Et en fait, j'étais assez ahurie de voir ce que le Seigneur nous avait déjà donné parce que c'est un carnet que j'ai commencé à remplir avant le Covid. Et on sait que c'est le siècle dernier maintenant, hein, n'est-ce pas? Et en fait, ben, il y avait déjà des promesses. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit vase et de l'eau qui jaillit d'en haut et qui éclabousse partout. Et on avait reçu ça lors d'un culte et je l'avais dessiné et j'avais mis en anglais, comme par hasard, Massive Overflow. Et avec ce qui se passe en ce moment, je me suis dit, waouh! Et ça, c'était avant que Alana parle. Hein. Donc, je pense que voilà, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire. Et en fait, ce que je crois, c'est qu'il veut encore nous débarrasser de notre incrédulité aujourd'hui. Parce que on peut être un peu sceptique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais seulement quand on n'est pas relié à ce que Dieu dit. Sinon, on ne peut pas être sceptique, on ne peut qu'être dans la joie et dans l'expectative de ce qui va se passer après. Et c'est tellement extraordinaire. Et ce qu'on a vécu ce soir, je pense que ça participe de ce que Dieu fait. Et c'est que le début. C'est que le début. Et donc, le titre de mon message, c'était « Se souvenir des promesses de Dieu ». Et ce sera en trois parties, se souvenir des promesses de Dieu. Facile comme plan, hein, c'était. Mais en fait, c'est juste ça. Je ne vais pas faire trop trop long parce qu'en fait, on a déjà vécu beaucoup de choses et je pense qu'à la fin, on aura encore un temps de prière pour continuer à creuser. Mais simplement, renforcer notre foi, renforcer notre. Parce que Dieu veut nous fortifier, il veut vraiment qu'on soit inébranlable en lui. C'est ce que encore j'ai reçu ce soir. Il veut nous rendre inébranlables en lui. Et pour ça, il a utilisé tout un tas de messages depuis cet été, même déjà avant, pour nous fortifier, pour nous faire avancer, pour nous faire croire dans ses promesses. Et donc, se souvenir, c'est difficile parce qu'on est oublieux, notre nature charnelle oublie rapidement, très rapidement, et je suis la première à oublier ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais je crois que c'est vraiment c'est notre nature. On est dans l'instant présent, on se projette sur l'avenir et puis on oublie le passé. Et comme l'avait déjà dit Fabrice dans un message qui date du mois de septembre, je l'avais retrouvé dans mon autre carnet où je notais plein d'autres choses. Oui, je fonctionne avec des carnets. Je prends exemple sur Anne qui note tout parce que en fait c'est super important de garder nos trésors, tous les trésors qu'on reçoit de la part de Dieu. Et justement, j'avais déjà oublié que mon mari avait parlé des fêtes. Et je vais en parler un petit peu parce qu'en fait les fêtes de l'Éternel, c'est aussi un moyen pour Dieu de nous faire nous souvenir, de nous faire nous rappeler de tout ce qu'il veut nous dire, de tout ce qu'il veut aussi nous donner. Et c'est intentionnel de sa part parce qu'il sait très bien qu'on oublie. Et les fêtes, c'est chaque saison. Il y a des moments particuliers comme ça où on doit se rappeler. Alors c'est très concret, hein, dans la culture juive, il y a des repas même qui sont associés, etc. Et on va bientôt fêter Pourim, le mois d'Adar, où il y a eu vraiment tout ce renversement, l'esprit d'Aman qui était là pour détruire, qui était là pour annihiler le peuple de Dieu et qui a été complètement retourné. Et ça, c'est une belle promesse aussi, c'est que le Seigneur, il est là pour garder son peuple. et nous sommes son peuple aussi. Et donc, ce que je vois surtout dans cette manière de faire de Dieu, c'est qu'il donne les solutions avant même que le problème n'arrive. Et ça, je trouve que c'est trop beau. Je trouve ça trop beau parce qu'il sait de quoi nous sommes faits, et il ne nous méprise pas, et il ne nous accuse pas, mais il nous donne déjà des solutions. Et on voit que dans la civilisation de l'oralité, qui était vraiment le point de départ en fait, hein, du peuple d'Israël, c'était important de se repasser les commandements, de se passer de génération en génération, de le dire. Parce que ce n'était pas encore écrit, pendant tout un temps, ce n'était pas écrit. Et donc, il y avait un rappel comme ça, continuel, des promesses, de ce que Dieu a déjà fait, de ce que Dieu va encore accomplir, de ce qui est accompli et de ce qui ne l'est pas encore. Et donc, vous avez dans Deutéronome 11, on peut le prendre. Deutéronome 11, c'est tout le chapitre parle de ça, mais vous avez notamment le verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux. Le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Etc, etc, etc. Donc vous avez une promesse qui est attachée aussi au fait de rappeler des enseignements, rappeler les promesses, rappeler les commandements hein, de Dieu à ses enfants. Le début du chapitre, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel. Votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon. Donc il y a un rappel de ce qui a été vécu en sortant donc du pays d'Égypte. Et puis là, il y a toute la marche dans le désert, il y a tout ce temps qui s'est passé. C'est comme un rappel, il y a encore ce rappel de dire « reconnaissez ce qu'il a fait ». Reconnaissez comment il vous a fait sortir, reconnaissez ce qu'il a, tous les miracles qu'il a fait pour sortir d'Égypte. Et ce rappel est tellement important parce que voilà, il y a Deutéronome, c'est la deuxième loi, hein, c'est la suite des aventures, on va dire, c'est la suite de l'histoire, et puis c'est avant la conquête de Canaan, donc il y a besoin de ce rappel, et ce rappel, ben, il aura lieu aussi pour Josué, hein, il va rappeler tout ce que le Seigneur a fait, et ça va l'encourager à se fortifier et à continuer la conquête. Et donc, vous avez plusieurs, j'ai pas fait le catalogue de tous les versets qui parlent de ça, mais il y en a énormément qui disent rappel, souviens-toi, redis à tes enfants, parle-en, rappelle-toi. Et donc c'est un enseignement qui est continuel dans la culture juive et qui est vraiment quelque chose de précieux. Et comme le disait Fabrice dans son message, ça évite l'éloignement en fait du peuple faute de connaissance. Et en fait, on voit donc que les fêtes sont fêtées à chaque saison, mais en fait, il y a un Shabbat qui est là toutes les semaines aussi pour nous. C'est aussi quelque chose que Dieu a mis en place, a instauré pour que l'homme se souvienne qu'il est en relation avec Dieu. Il doit tout arrêter, il doit arrêter tout son travail et il doit se prendre ce temps pour se mettre en relation avec Dieu. C'est chaque semaine. Et dans le Nouveau Testament, on voit que les disciples, ceux qui voulaient suivre Jésus, prenaient le pain et le vin chaque jour. Donc la scène, le pain, le vin, c'est presque, on pourrait le prendre chaque jour. Et chaque jour, on se souvient de quoi ? De ce que Jésus a fait pour nous. Et il nous le dit, faites-le en mémoire de moi, faites-le pour vous souvenir de ce que j'ai fait, de mon œuvre, de mon salut. Donc il y a chaque saison, chaque semaine, et même on pourrait faire chaque jour. Chaque jour, se souvenir de ce que Dieu a fait. Et ça nous permet de nous placer dans une continuité, de nous rappeler qu'on est participant de la racine d'Abraham, hein, vous vous souvenez ? on a parlé de ça il y a quelques semaines. On n'est pas dans le vent individualiste comme ça, des individus placés les uns à côté des autres. On est vraiment une communauté et qui plonge sa racine très loin dans l'histoire d'Israël. Et Dieu se souvient aussi. Dieu aussi se souvient. À quel moment Dieu se souvient ? Petite interro surprise. Oui, quand il voit l'arc dans la nuit, dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un signe, hein, dans Genèse 9, 13. J'ai placé mon arc dans le ciel. Donc c'est quelque chose qui nous passionne d'ailleurs, hein, on ne sait pas encore trop bien exactement comment c'est possible physiquement, mais on a quelques petites idées, mais c'est quelque chose d'assez mystérieux de voir l'arc dans la nuit et l'arc-en-ciel qui est tellement beau, qui nous fascine tous et qui en fait permet à Dieu de se rappeler qu'il n'enverra plus le déluge d'eau sur la terre. Donc Dieu aussi se souvient. Il se souvient de ses promesses. Et alors, pour la deuxième partie, on va travailler un petit peu plus sur le mot promesse. Le mot promesse, il est assez intéressant. Parce que nous, quand on dit oui, promis, 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 parfois on ne tient pas trop nos promesses. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas ? Dans Nombre 23, 19, c'est clair, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et puis, il se... alors, je ne sais pas si tu peux la voir. Voilà, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Donc, il va tenir ses promesses. Il est un Dieu de parole, et c'est intéressant de travailler un petit peu sur l'étymologie. Donc, la parole donnée, évidemment, la parole donnée, normalement, quand on donne sa parole, on fait un acte, on fait quelque chose, on fait une action, en fait. On n'est pas juste en train de... Parole, parole, parole. Mais évidemment, en tant qu'humain, on pourrait dire quand on donne sa parole, on peut la reprendre. Mais Dieu, il ne la reprend pas. Et donc, il y a un certain nombre de promesses. Donc, le latin promissa, ça nous permet d'aller chercher un petit peu dans l'étymologie. C'est un synonyme d'engagement, de serment. Et ce n'est pas simplement une parole en l'air. C'est vraiment un engagement, une assurance de dire ou de faire quelque chose. Presque un synonyme de garantie, d'une prédiction, d'une annonce. Donc c'est un mot qui est assez fort quand on va voir dans son étymologie. Et par exemple, ça nous fait penser aussi au mariage, parce que quand on se marie, c'est un acte qu'on fait en parole, c'est-à-dire qu'on s'engage mutuellement, et l'engagement qu'on fait dans la parole de l'un et de l'autre partagé, en fait, c'est un acte, le mariage, on se marie en parlant. C'est une qualité du langage, on ne va pas rentrer dans les détails linguistiques, mais voilà, c'est le principe de faire par la parole. Et en fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand Dieu fait, quand Dieu parle, en fait, il fait, il crée. Et on sait, hein, la parole de Dieu, elle est créatrice. Et quand il promet, en fait, il est déjà en train de faire quelque chose. Il y a un certain nombre de promesses qui sont conditionnelles, qui sont données avec une condition, d'autres qui sont inconditionnelles. Il y a des promesses qui sont personnelles, qui sont données à des personnages dans la Bible et qui les concernent uniquement eux. Alors bien sûr, on peut recevoir aussi un réma en se l'appropriant. Mais il y a des promesses qui sont universelles. Quoi que nous fassions, Jésus va revenir. C'est une promesse qui est universelle, qui est certaine. Et elle n'est pas conditionnée à notre comportement, à notre action. C'est Dieu qui l'a annoncé et ça s'accomplira. Et quelle est la première promesse qui a été faite, qui est écrite dans la Bible ? Deuxième interro surprise. C'est pour pas que vous vous endormiez. Première promesse. Sachant que c'est un engagement, en fait, hein, déjà. Il faut aller chercher dans Genèse. Mais c'est une belle promesse aussi. Donc dans Genèse 3, verset 15, Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pourquoi je dis que c'est une promesse ? Parce que pour moi, c'est, bien sûr, c'est une prophétie, c'est une annonce, c'est l'annonce de ce que Jésus va faire, c'est-à-dire qu'il va écraser la tête du serpent. Donc on est dans Genèse 3, le mal vient d'entrer sur terre. Et avant même que Dieu donne toutes les conséquences à Adam et à Ève, il parle au serpent, il maudit le serpent et il lui dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc il y a déjà l'annonce, avant même toutes les conséquences néfastes du péché pour l'homme et pour la femme, il y a déjà l'annonce de la domination de Jésus. Déjà la solution, c'est pour ça que je parlais avant de solution, Dieu donne la solution avant même que le problème n'arrive. Et là en fait, il annonce déjà la victoire de Jésus dans Genèse 3. C'est pour ça que je l'aime bien cette promesse-là. Donc le problème c'est que nous on projette parfois des choses qu'on a vécues avec justement des promesses qui n'ont pas été tenues. Et on projette ça sur Dieu en disant, oui, bon, est-ce que je peux vraiment avoir confiance en Dieu parce que peut-être que j'ai mal compris ce qu'il a dit, ou peut-être que je me fais des idées, ou peut-être que, etc., etc. Et donc ça a construit en nous une sorte de doute et d'incrédulité parce qu'on a vécu des choses similaires avec des personnes autour de nous, que ce soit des personnes en autorité, des parents, des pasteurs, des professeurs. Et en fait, on construit cette méfiance par rapport à Dieu qu'on vit sur terre. Et là, on a vraiment besoin d'aller chercher les lunettes du ciel pour dire non, Dieu, il n'est pas comme ceux qui m'ont fait du mal ou qui m'ont déçu ou qui m'ont fait des promesses dans le vent. Ces promesses à lui, elles sont parfaites et elles vont s'accomplir. Et parfois, le problème, c'est que le temps de l'accomplissement n'est pas celui qu'on aimerait. Et donc on se dit, ah bon, ben, si ça tarde, c'est peut-être que je me suis mal, que j'ai mal compris ou que ce n'est pas vraiment ce que j'ai entendu, ce n'est pas vraiment ce que j'ai reçu comme promesse. Mais par exemple, la promesse qui a été faite à Abraham, la promesse de la terre, elle est arrivée longtemps après. Il a mis du temps. Et pourtant, il aurait pu se décourager en se disant, mais non, ça n'arrivera jamais. Et il y a eu besoin de plusieurs générations, de la conquête, même jusqu'à Josué, pour l'accomplissement de cette promesse. Donc, il ne l'a même pas vu, Abraham. Il l'a vu seulement en esprit. Il l'a vu par la foi. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le père de la foi. C'est un des pères de la foi, c'est qu'il a fait confiance à Dieu pour quitter. Il ne savait pas forcément tout le résultat final de la promesse de Dieu. Il a vu une partie, bien sûr, mais il n'a pas eu l'accomplissement total. Ça s'est passé longtemps après. Et donc, on sait que Dieu travaille sur plusieurs générations, mais est-ce qu'on a la patience pour attendre que Dieu fasse son œuvre avec la promesse qu'il a donnée ? Donc, on a besoin de pardonner à ceux qui nous ont déçus pour ne pas retransmettre notre déception sur Dieu, et on a besoin d'être patient. C'est bien difficile, hein, n'est-ce pas ? Je compatis. Et donc on arrive à notre troisième partie. Comme dit, je ne veux pas faire trop long parce que je voudrais justement qu'on arrive à ce temps de prière où on pourra justement pardonner, demander pardon si besoin, pour que le Seigneur puisse encore travailler dans nos vies et puis qu'on puisse bien expulser notre esprit d'incrédulité qui veut s'accrocher à nous. Quand j'ai relu certains passages qu'on avait reçus au fur et à mesure des mois, de ces derniers mois, Vito avait reçu un passage et puis Luc avait parlé de l'Église qui est née de Dieu et qui n'est pas une idée humaine mais qui est une idée de Dieu et qui il a donné un projet à l'Église et c'est aussi une promesse, c'est une promesse de conquête, c'est aussi une promesse de domination sur c'est pas sur la chair et le sang, hein, c'est sur tout ce qui tient notre pays captif. Et c'est bon de s'en rappeler régulièrement. Parce que quand on traverse des moments comme ça compliqués qu'on est en train de traverser en ce moment, on peut aussi se décourager. Et c'est normal, c'est humain. Mais le fait de se rappeler des promesses de Dieu nous fortifie. Parce que Dieu, donc la troisième partie, c'est Dieu. Qui est Dieu en fait ? C'est que il est notre tout. On s'est débarrassé de tout ce qui était peut-être des attaches humaines, des béquilles, etc. Qu'est-ce qui nous reste ? C'est Dieu. Je me rappelle un moment, c'était simplement « Seigneur, on n'a plus rien, il n'y a que toi qui reste. » Mais c'est bien, parce qu'il n'y a que ça qui est important. Et ça fait penser aussi, à un moment donné, j'avais noté quelque part que voilà, le grain doit mourir pour porter du fruit, et j'avais marqué « le grain, c'est nous, la graine, c'est nous ». Et c'était comme si je sentais qu'il y avait une mort, d'une certaine manière, mais que c'était pour porter plus de fruits. Et là, ça y est, ça commence à pousser tout doucement. On voit les choses arriver. On les voit de l'autre côté de l'Atlantique et on aimerait qu'elles arrivent vers chez nous. Mais on sent depuis plusieurs semaines que ça pousse et que le Seigneur, il nous prépare et qu'il fait du travail en nous, au travers de nous, pour que ça puisse venir. Et c'est comme s'il y avait cet esprit de résurrection qui pousse, qui pousse, qui pousse et qui veut germer. Mais pour ça, on a besoin de se débarrasser de certaines choses encore. Et je finis avec le psaume 100, verset 5. Parce que je l'ai lu, enfin, on l'a reçu il n'y a pas longtemps dans une formation. Ça n'avait rien à voir avec la préparation de ce message, mais je le trouvais vraiment très beau. Et je me suis dit, bon, bah, ça peut être une bonne conclusion. L'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Donc Dieu est un Dieu fidèle. On a beaucoup parlé de sa bonté, mais c'est de génération en génération. Et ça, c'est une belle promesse. Amen. Alana, tu peux bien venir. Donc je veux simplement qu'on prenne un temps de prière. Et puis, ce que Dieu a commencé en début de culte, ouais, je veux bien. Ce que Dieu a commencé en début de culte, il est totalement capable de le continuer, de l'intensifier. Comme l'a dit Alana, on ne veut rien provoquer, mais on sent que voilà, il est là, il veut faire son travail en nous, au travers de nous, et pour tout ce qui est devant nous aussi. Et on veut, Seigneur, je veux simplement encore te laisser la place, Saint-Esprit. Viens faire ton œuvre, viens encore déblayer tout ce qui est de l'incrédulité en nous. Parce que si on regarde à tes promesses, si on regarde au Dieu vivant que tu es, il n'y a plus aucune peur, plus aucun obstacle, plus aucune incrédulité qui peut rester. Et je prends autorité maintenant sur tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de scepticisme, tout ce qui est bien français, en pensant que c'est supérieur. On est plus intelligent quand on est sceptique. Je dis non, c'est faux. On ne nous a pas appris à croire, on nous a appris à douter dans notre éducation française. Et je renie ça maintenant, je crache maintenant, je n'en veux plus maintenant. Dans le nom de Jésus, je maudis tout esprit de doute maintenant. Tu dégages dans le nom de Jésus. Tous les obstacles qui ont été mis, soit consciemment, soit inconsciemment, avec toute cette culture de mort qui est encore proche, qui est encore sur nous, qui nous pollue la tête, qui nous pollue notre âme. Je dis stop maintenant, dans le nom de Jésus, stop maintenant. Tout ce qui vient polluer la source de ta bonté, tout ce qui vient polluer la source de ta bénédiction, dégage maintenant. Que tu puisses venir purifier en profondeur nos entrailles, Seigneur. Viens purifier en profondeur nos entrailles, Jésus. Et nous te demandons pardon parce que nous avons pu faire un accord conscient ou inconscient avec cet esprit de doute qui est là, qui est très présent sur notre nation. Nous te demandons de nous pardonner, Jésus. Apprends-nous à croire. Apprends-nous à être comme des enfants qui croient. Qui croient, tout simplement, avec un cœur joyeux. Et Seigneur, pardon parce qu'on a laissé la joie tomber par terre et qu'on ne l'a pas gardée dans nos cœurs. Parce que ça faisait plus sérieux d'être sceptique. Parce que ça faisait plus mature, ça faisait plus adulte. On renonce à ces choses maintenant. on renonce à tout cet esprit de scepticisme, à tout cet esprit de mépris, dans le nom de Jésus. On renonce à tous les mensonges qui vont avec. Saint-Esprit, éclaire nos âmes, éclaire nos esprits, que tu puisses nous montrer à quel endroit on a cru des mensonges. S'il y a des mensonges qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez y renoncer. Si vous sentez que vous avez besoin de vous repentir, allez-y, laissez le Saint-Esprit faire. Que vous soyez débarrassés, le but c'est la liberté, c'est la purification. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune condamnation, c'est simplement pour nettoyer notre canal, que le canal soit libre, que cette eau puisse jaillir à travers nous, l'eau du ciel qui a été promise. Que cette eau puisse descendre et jaillir, qu'il n'y ait aucun obstacle. Seigneur, on te laisse faire ton travail. Saint-Esprit, toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Révèle-nous là où il y a encore des obstacles, là où il y a encore des peurs, là où il y a encore des craintes, des incrédulités qui restent. On veut s'en débarrasser ce soir, on veut que tu viennes travailler notre cœur, Seigneur. On se laisse faire. On reste disponible. Merci pour ta guérison. Merci pour la guérison dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps aussi. Parce que tu viens avec ta vérité. Tu viens remplacer tous les mensonges. Tu viens avec ta vérité. Tu es le Dieu éternel. Tes promesses, elles sont éternelles. Elles sont oui et amen. Elles sont pleines de vie. Tes promesses, elles sont pleines de vie. Tes promesses, elles sont pleines de vie. Viens, esprit de résurrection. Viens faire ton œuvre en nous. Que tout ce qui est mort maintenant revive. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Viens, continue à pousser en nous. Continue à pousser dans nos entrailles. Continue à faire ton œuvre. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Parce que nous savons que c'est pour au-delà de nous. Nous savons que c'est pour plus de fruits. Tu nous as émondés pour encore plus de fruits. Et simplement, nous nous positionnons en toi. Ferme sur l'assurance que tu es avec nous tous les jours. Ça, c'est une très belle promesse aussi. Tu es avec nous tous les jours.